Bienvenue à cette nouvelle exploration des informations qui façonne un peu notre compréhension du monde.
Bonjour.
Comme chaque semaine, on va s'appuyer sur les documents partagés pour essayer d'en extraire les idées, disons, les plus importantes. Aujourd'hui, notre analyse, elle se concentre sur les extraits de la publication Lodge Heat Week numéro 96. C'est celle du 7 septembre 2025.
D'accord.
L'idée, c'est d'identifier les courants forts, de saisir un peu les enjeux majeurs, sans se noyer dans le flot continu d'infos, quoi. Allons-y.
Oui, et cette semaine, les sources nous donnent une vision assez large, en fait. On va regarder plusieurs dynamiques clés.
D'accord.
D'abord, il y a les frictions socio-économiques au Maroc. C'est assez visible avec la rentrée, le coût de la vie.
Oui.
Ensuite, on va aborder tout ce qui est sécurité, diplomatie, au niveau national et international. Ça inclut des achats de matériel de défense, mais aussi des rendez-vous géopolitiques importants.
Je vois.
L'intelligence artificielle, bien sûr, on en parle beaucoup, elle sera aussi au cœur de nos discussions.
Incontournable.
Et puis, on terminera avec quelques échos culturels, des tendances un peu plus légères peut-être, mais qui révèlent aussi des changements. C'est un panorama assez complet, des tensions et des transformations actuelles, finalement.
Parfait. Alors commençons par le Maroc et ses tensions socio-économiques. La rentrée scolaire, on dirait que ça agit un peu comme un révélateur.
Oui.
Les sources parlent d'une colère qui monte chez les parents d'élèves du privé. Les coûts sont jugés prohibitifs. On parle de listes de fournitures énormes, de frais d'inscription, de réinscription qui semblent gonflés, quoi. On sent une vraie exaspération.
Oui, et c'est plus qu'un simple ressenti. Des organismes comme la FNAPEM, la Fédération des parents d'élèves, et l'Observatoire marocain de la protection du consommateur.
Oui, l'OMPC.
Voilà, l'OMPC, ils tirent vraiment la sonnette d'alarme. Ils pointent du doigt des pratiques qu'ils estiment illégales.
Comme quoi, par exemple ?
La vente forcée de fournitures par les écoles elles-mêmes, ça c'est un classique, malheureusement. Un manque de transparence flagrant sur la nature des frais demandés, l'absence de factures claires, détaillées.
D'accord.
Et tout ça, c'est en violation directe de la loi sur la protection du consommateur. Donc l'appel est lancé pour qu'il y ait plus de contrôle et que les parents signalent systématiquement ces abus.
Le risque, c'est quoi à terme ?
Le risque, c'est d'aggraver encore plus la fracture entre l'enseignement public et le privé. C'est déjà une préoccupation, mais là...
Oui, je comprends. Et cette pression financière, elle ne touche pas que l'école, j'imagine.
Non, non.
Les documents mentionnent aussi la persistance de prix élevés pour des produits de base. L'exemple donné, c'est le kilo de viande ovine qui atteint 115 dirhams au marché de gros de Casablanca.
Oui, c'est un indicateur très concret des difficultés pour beaucoup de familles.
C'est énorme.
Ouais. Et ce qui est vraiment frappant, c'est le contraste presque violent avec d'autres chiffres qu'on trouve dans les mêmes sources.
Ah oui. Lesquels ?
Ceux du rapport Henley & Partners sur la richesse privée. Ce rapport, il estime qu'il y a 7500 millionnaires au Maroc et 4 milliardaires.
Quand même.
Et ce n'est pas tout. Le pays aurait attiré 700 nouveaux millionnaires rien qu'en 2025. Il se distingue comme l'un des rares pays africains à avoir un solde migratoire positif pour les grandes fortunes.
C'est-à-dire qu'il y a plus de riches qui arrivent que de riches qui partent.
C'est ça, en gros. La source met vraiment ces deux réalités économiques côte à côte. Ça dessine le portrait d'une société avec des extrêmes très marqués.
C'est assez parlant. En parlant du chiffre qui interpelle, il y a cette histoire incroyable sur les statistiques du cheptel marocain.
Ah oui, celle-là. Les données officielles, elles semblent se contredire de manière assez spectaculaire. On se souvient, en février 2025, on nous annonçait une baisse énorme à 24 millions de têtes.
Oui, une chute drastique.
Et là, surprise. En août 2025, un recensement piloté par le ministère de l'Intérieur annonce 39 millions de têtes.
Ça fait une augmentation de quasiment 90% en à peine 6 mois. Comment on explique un bond pareil ?
C'est la question qui agite tout le monde, les observateurs, les professionnels du secteur. Biologiquement, une telle croissance en si peu de temps, ça semble défier un peu les lois de la nature, quoi.
On est d'accord.
Les explications officielles, elles parlent de l'impact des subventions pour l'alimentation du bétail, des campagnes de vaccination qui auraient bien marché, l'encouragement à l'importation.
Oui, mais quand même.
Mais voilà, comme le souligne un éleveur qui est cité dans l'article, le temps de gestation d'une vache, c'est 9 mois, celui d'une brebis, c'est 5 mois. Donc un miracle démographique animal de cette ampleur, ça paraît difficilement crédible.
Doucement sceptique, on va dire.
Disons que ce décalage entre les chiffres officiels et la réalité biologique perçue sur le terrain, ça soulève des questions sur la fiabilité des statistiques publiques dans ce secteur, qui est très sensible. Ça fait un peu écho d'ailleurs au scepticisme dont on parlait sur les frais scolaires. Peut-être un défi de confiance plus général, quoi.
C'est une piste intéressante. Bon, changeons de registre. Il y a aussi des initiatives économiques structurantes qui sont mentionnées.
Oui, heureusement.
Les sources détaillent le lancement d'un très gros projet à Medjouna, près de Casablanca. Un immense complexe d'incinération et de valorisation énergétique des déchets.
C'est ça, un investissement colossal. 11 milliards de dirhams. C'est un partenariat maroco-japonais.
Et l'objectif, c'est quoi exactement?
Il est double. D'abord, produire de l'énergie propre à partir des déchets. Ensuite, et c'est important, intégrer les chiffonniers, ces récupérateurs informels, dans le circuit économique formel. C'est présenté comme une première en Afrique.
C'est ambitieux.
Oui, et le Maroc semble aussi mettre le turbo sur les énergies renouvelables. Un rapport du think tank Ember, cité dans nos documents, indique que le pays a maintenant atteint une capacité industrielle annuelle de 1 gigawatt pour fabriquer ou assembler des équipements renouvelables, surtout solaires.
C'est beaucoup, 1 gigawatt.
C'est significatif, oui. Ça montre une volonté de réduire la dépendance, notamment vis-à-vis des importations chinoises, et de mieux maîtriser la chaîne logistique. L'inauguration récente d'une centrale solaire flottante à Tanger, ça va dans le même sens. Chercher des solutions innovantes et plus d'autonomie énergétique.
D'accord. Et un dernier mot sur les infrastructures, l'aéroport d'Oujda en Gade.
Oui, il est en pleine croissance. Le trafic a augmenté de 14% depuis janvier.
C'est pas mal.
Non, c'est bien. Il a dépassé les 800 000 passagers. Ça confirme son rôle de moteur pour la région de l'Oriental. Ça rejoint les efforts pour un développement plus équilibré du territoire, au-delà des axes Casablanca-Rabat.
Très clair. Passons maintenant au deuxième grand thème, sécurité, défense et justice. Côté défense, il y a cette acquisition de 10 hélicoptères H-225M Caracal d'Airbus. C'est un fait marquant.
Ah oui, ça, c'est une grosse acquisition. Ce sont des appareils très polyvalents, ils peuvent faire beaucoup de choses. Transport de troupes, évacuation sanitaire, ce qu'on appelle évasant, sauvetage dans des conditions difficiles, ou même soutien aux opérations spéciales.
Donc, ça renforce les capacités des forces armées.
Exactement. Et au-delà du matériel lui-même, ça renforce aussi les liens avec les partenaires européens, ça améliore l'interopérabilité des forces, la capacité à travailler ensemble, et ça inclut des transferts de savoir-faire, notamment en maintenance prédictive.
La maintenance prédictive, c'est quoi ça?
C'est la capacité à anticiper les pannes avant qu'elles n'arrivent, grâce à l'analyse des données de l'appareil. C'est très important pour la disponibilité des hélicoptères.
D'accord. Et cette modernisation du matériel, elle s'accompagne aussi d'un focus sur l'immatériel, la cybersécurité.
Tout à fait.
Un contrat de 43 millions de dollars avec une entreprise américaine, Sumaria Systems, pour le soutien technique, les tests, mais surtout la protection cyber de la flotte de F-16 marocains.
Oui, l'expression utilisée dans la source, c'est « cyberbouclier pour nos F-16 ». Ça illustre bien l'enjeu.
Un cyberbouclier.
La résilience digitale, comme on dit, c'est crucial dans les conflits modernes. L'électronique, les systèmes d'armes sont des cibles privilégiées maintenant.
C'est logique. Sur un plan plus social, plus intérieur, les documents parlent du lancement d'une campagne de recensement des immigrés par le ministère de l'Intérieur.
Oui, alors cette décision, elle interviendrait après une altercation assez violente à Mohamedia. Apparemment, elle impliquait des ressortissants étrangers et il aurait eu 2 morts.
Ah oui, quand même.
L'objectif officiel de ce recensement serait de mieux cartographier les situations administratives, prévenir d'éventuels troubles, adapter l'accompagnement social. Mais il faut noter que les détails officiels de la campagne n'étaient pas encore publics quand l'article est paru.
C'est une démarche délicate, j'imagine.
Très délicate. Les sources insistent sur la nécessité de faire ça dans le respect strict des droits humains.
Bien sûr.
Il faut éviter toute récupération xénophobe de l'incident qui a déclenché ça. Et surtout, créer un climat de confiance pour que les personnes concernées coopèrent sans crainte et pour éviter les rumeurs. C'est un équilibre difficile à trouver.
Oui, on imagine. Abordons maintenant la sphère judiciaire. Il y a eu un verdict qui a fait beaucoup de bruit, la condamnation de la militante Ibtissam Lashgar.
Oui, un verdict lourd, hein. 2 ans et demi de prison ferme et une amende de 50 000 dirhams.
Et le motif?
Une publication sur les réseaux sociaux qui a été jugée blasphématoire. Il y avait une photo d'elle avec un t-shirt « Allah is lesbian » et un texte critiquant les religions. La condamnation s'appuie sur l'article 267.5 du Code pénal qui punit l'offense à la religion par voie électronique.
Et sa défense disait quoi ?
Sa défense a plaidé qu'elle voulait critiquer le patriarcat, pas offenser la foi. Et elle a souligné que le design du t-shirt était ancien, qu'il avait été conçu bien avant.
L'affaire a provoqué beaucoup d'émotions, non ?
Énormément. Surtout à cause de l'état de santé de Madame Lashgar, qui souffrirait d'un cancer. Sa demande de libération provisoire pour raison médicale a été refusée.
Hein ?
Des organisations comme l'AMDH, l'Association marocaine des droits humains, ont parlé de verdict injuste. Un appel est prévu et l'affaire a eu un écho international. C'est vraiment un cas emblématique de cette tension entre la loi, la liberté d'expression et la liberté de conscience.
C'est complexe. Et pendant ce temps, il y a d'autres évolutions dans la justice ?
Oui, alors que cette affaire très médiatisée pose des questions sur les lois et leur application, il y a aussi la loi sur les peines alternatives, la loi 43-22, qui commence à être appliquée.
Les peines alternatives ?
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire des sanctions autres que la prison. Travail d'intérêt général, amende jour, etc. L'objectif, c'est de désengorger les prisons et de proposer des sanctions plus adaptées pour certaines infractions quand le juge l'estime pertinent. Selon les sources, il y aurait déjà plus de 50 jugements rendus dans ce cadre.
C'est un début. Les sources mentionnent aussi rapidement une permission de sortie pour Nasser Zefzafi.
Oui, une permission funéraire pour assister aux obsèques de son père. C'est noté brièvement.
D'accord.
Et pour finir sur ce volet sécurité, un mot sur la cybersécurité nationale. Il y a la nomination du général de brigade Abdellah Obutri à la tête de la DGSSI, la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information.
Ce qui montre l'importance accordée à ce domaine.
Exactement. Ça signale une volonté de renforcer la posture du Maroc face aux menaces qui sont croissantes dans le cyberespace.
Bien noté. Élargissons notre perspective maintenant. Thème 3. Les échos internationaux, la géopolitique, l'actualité est dense.
C'est le moins qu'on puisse dire.
On commence avec ces accusations du FBI contre la Chine, l'opération Salt Typhoon. Ça parle d'un réseau de cyberespionnage chinois énorme.
Oui, d'une ampleur considérable. Ils auraient infiltré les infrastructures de télécom de plus de 80 pays pour aspirer des données massivement.
80 pays ? Et les opérateurs ?
Des grands noms comme Verizon et T-Mobile ont confirmé avoir détecté ou bloqué des intrusions. C'est une illustration assez brutale de la conflictualité qui se joue maintenant dans le cyberespace.
Et ça s'inscrit aussi dans des reconfigurations géopolitiques plus larges, j'imagine.
Tout à fait. Le sommet tripartite de Pékin, c'était un événement majeur. Réunir pour la première fois Kim Jong-un, Xi Jinping et Vladimir Poutine.
Oui, l'image était forte.
Très forte. Et beaucoup en Occident l'interprètent comme la consolidation d'un axe qui conteste l'ordre actuel, avec des implications potentiellement lourdes.
C'est-à-dire ?
Un soutien renforcé à la Russie qui est sous sanction, une légitimation accrue de la Corée du Nord et bien sûr l'affirmation de la puissance chinoise face aux États-Unis et à leurs alliés.
Et pour un pays comme le Maroc, même si ça paraît loin, quelles conséquences possibles ?
Les sources suggèrent des impacts indirects mais bien réels. Une plus grande volatilité sur les marchés de l'énergie, des céréales. Une possible fragilisation des institutions internationales où le Maroc essaye de faire entendre sa voix. Les secousses globales, elles finissent toujours par se propager d'une manière ou d'une autre.
Logique.
Et la Russie, de son côté, elle multiplie les initiatives pour essayer de briser son isolement. Il y a eu un autre sommet à Tianjin, cette fois.
Oui. Avec qui ?
Poutine a rencontré le premier ministre indien Modi et le nouveau président iranien Pezeshkian. C'est intéressant, ça montre la stratégie russe, mais aussi la volonté de l'Inde de garder une politique étrangère autonome, ce qu'on appelle le multi-alignement.
Ils ne choisissent pas de camp.
Voilà, et pour l'Iran, c'est une recherche d'ouverture économique. On parle même d'une coordination plus poussée pour utiliser leur monnaie locale dans les échanges pour contourner le dollar.
Pendant ce temps, à Paris, il y avait une autre réunion pour l'Ukraine cette fois, la coalition des volontaires.
Oui, avec Zelensky, Macron et le premier ministre britannique Starmer. L'objectif affiché, c'était de mieux coordonner l'aide militaire occidentale à Kiev.
Concrètement, Evelyne ?
Les livraisons d'armes, la doctrine d'utilisation, la défense antiaérienne, le soutien à l'industrie de défense ukrainienne. Une façon de montrer une certaine détermination européenne face à un conflit qui dure.
D'accord. Sur le plan judiciaire international, il y a eu aussi du nouveau concernant la Syrie.
Oui, la justice française a émis 7 mandats d'arrêt contre d'anciens hauts responsables syriens. Et parmi eux, Bachar al-Assad lui-même.
Ah oui, pour quelle affaire ?
Pour leur rôle présumé dans l'attaque qui a tué la journaliste américaine Marie Colvin et le photographe français Rémi Hochelik, à Homs, en 2012.
Et c'est possible, ça ? Juridiquement.
C'est l'application du principe de compétence extraterritoriale. Ça permet à la justice française de poursuivre certains crimes graves commis hors de France. Bon, l'exécution de ces mandats, ça reste incertain, évidemment.
On s'en doute.
Mais la portée symbolique, elle, est très forte.
Dans un autre contexte de conflit, Gaza, un document controversé circule, attribué à l'entourage de Trump.
Oui, un document qui décrirait un plan post-conflit assez radical. On parle de vilia, de déplacement volontaire de population et du rôle d'une ONG israélienne GHF, connue pour ses positions très dures.
Mais c'est officiel ce document ?
Non, justement. Les sources précisent bien que ce n'est ni officiel ni authentifié, mais sa simple évocation suffit à soulever d'énormes questions éthiques et juridiques sur les transferts de population, la reconstruction...
C'est le moins qu'on puisse dire.
Et la tragédie de Gaza a aussi eu un écho très émouvant au Festival de cinéma de Venise, avec la présentation d'un film... « The Voice of Hind Rajab ». C'est un documentaire qui retrace les dernières heures d'une petite fille palestinienne de 6 ans, tuée en janvier 2024 alors qu'elle était au téléphone avec les secours.
Terrible.
Un rappel brutal de la dimension humaine de ce conflit.
Enfin, pour clore ce chapitre international, des tensions régionales signalées entre le Mali et l'Algérie.
Oui, des médias maliens comme Mali 24 accusent Alger de soutenir en sous-main des groupes armés pour déstabiliser le Sahel. Il critique aussi une diplomatie algérienne qu'il juge opaque.
Et ça vient après la rupture de l'accord d'Alger de 2015.
Exactement. L'article mentionne que ces médias maliens font un parallèle avec le soutien algérien au Polisario, un parallèle qualifié de controversé.
Il faut être prudent avec ces accusations, j'imagine.
Absolument crucial. Comme le souligne la source elle-même, il faut aborder ça avec une grande prudence. Ça vient de médias maliens dans un contexte de relations très tendues. Et à ce stade, ce n'est pas corroboré par des sources indépendantes ou internationales. C'est important de faire la distinction pour ne pas relayer des allégations non vérifiées comme si c'était des faits établis.
Entendu. Bien, terminons notre tour d'horizon avec le dernier thème. Technologie, culture et tendance. L'IA, l'intelligence artificielle, elle est partout. Y compris dans les craintes des entreprises.
Oui. Une étude de Kaspersky, citée dans nos documents, est assez révélatrice. Près de 6 entreprises sur 10 ont peur des fuites de données sensibles via des attaques utilisant l'IA.
6 sur 10, c'est beaucoup.
Oui. Et près de la moitié, 41%, avouent qu'elles manquent de compétences en interne pour faire face à ces nouvelles menaces. L'IA est vue à la fois comme un outil formidable et une arme potentielle redoutable.
Elle s'invite aussi dans la création artistique, non ? Avec des polémiques.
Effectivement, le dernier single du rappeur Jules, Toi et moi, fait débat. Un beatmaker spécialisé, LNK, affirme, preuves à l'appui, que l'instru a été généré par une IA.
Ah bon ?
Oui, et ça a divisé les fans. Où est la frontière de l'authenticité artistique à l'heure de l'IA générative ? C'est une vraie question qui se pose.
Et on voit aussi l'IA arriver dans des fonctions assez inattendues. L'exemple de Hey Géraldine est marquant.
Oui, Hey Géraldine. C'est un chatbot IA, l'avatar numérique d'une thérapeute municipale à Peterborough, en Angleterre. Elle était débordée de demandes.
Et alors, ça marche ?
Apparemment, oui. En 6 semaines, ce chatbot aurait traité 1200 requêtes d'employés municipaux. Il leur aurait fait économiser 300 heures de travail humain. C'est fascinant en termes d'efficacité, mais un peu déroutant sur le plan humain quand même.
C'est sûr. Dans les réseaux sociaux, il y a du neuf aussi, hein ? Le retour de Vine.
Annoncé par Elon Musk, oui. Le retour de Vine, la plateforme de micro-vidéos. Mais ce serait une version réinventée, qui s'appuiera sur l'IA générative de vidéos Grok Imagine.
Et les anciennes vidéos ?
Fait intéressant. Les archives des anciennes vidéos Vine, qu'on croyait perdues, auraient été récupérées et pourraient être remises à disposition.
Tiens donc.
Et dans cette course à l'IA, Google ne se prive pas de tacler Apple. Une pub pour le Pixel 10 se moque gentiment du retard apparent de Siri, dont la grosse mise à niveau IA n'est pas attendue avant 2026.
La guerre de l'IA est déclarée. Un mot sur le marché automobile, la révolution électrique.
Elle est en pleine accélération. Le classement mondial des ventes de véhicules électriques montre la montée spectaculaire du constructeur chinois BYD.
BYD.
Oui, il rivalise maintenant avec Tesla et le groupe Volkswagen sur le podium mondial. L'arrivée de ces nouveaux acteurs chinois bouscule complètement l'ordre établi et force toute l'industrie à accélérer sa transition.
D'accord. Côté tendance plus, bien-être, lifestyle.
Les sources évoquent l'émergence discrète au Maroc de la pratique du « grounding » ou « earthing ».
Le « grounding », c'est quoi ?
Ça consiste simplement à marcher pieds nus sur la terre, l'herbe, le sable. Une recherche de reconnexion simple à la nature. C'est vu comme un antidote potentiel au stress, aux maux de la vie moderne.
Marcher pieds nus, tout simplement ?
Voilà. Et puis, il y a quelques conseils pratiques qui sont donnés. Faire attention à l'hygiène des planches à découper pour éviter les contaminations croisées.
Bois ou plastique ?
Le débat continue. Ou encore utiliser du marc de café contre les fourmis. Une pincée de sel pour conserver les fleurs coupées. Des petits trucs du quotidien.
Il y a aussi cette métaphore amusante pour expliquer le bilan lipidique, le cholestérol.
Ah oui, j'ai trouvé ça très parlant. Le cholestérol total, c'est l'agitateur. Le HDL, c'est le bon flic qui l'emmène au commissariat, le foie. Et le LDL, c'est le mauvais flic corrompu qu'il relâche dans les rues, les artères.
C'est bien trouvé. Et la solution pour renforcer les bons flics ?
L'exercice physique, surtout la marche. Et bien sûr, les conseils nutritionnels qu'on connaît. Limiter le sel, le sucre, les farines blanches, les produits laitiers, les produits ultra transformés.
Et privilégier quoi ?
Les légumes, les légumineuses, les noix, les graines, les bonnes huiles. Le bon sens, finalement.
Très bien. Et pour finir sur une note culturelle.
Plusieurs festivals sont annoncés, ça bouge. Vivre poétiquement à Fès en octobre, le Fado Festival à Rabat en septembre et bien sûr l'incontournable Le Boulevard à Casablanca entre septembre et octobre.
Une bonne nouvelle pour la scène culturelle.
Oui, et puis il y a cette histoire incroyable. Un tableau de Dali, le vieux sultan, qui a été acheté pour une bouchée de pain, 173 euros, dans une vente de liquidation.
Non.
Si. Il a été authentifié et il vaudrait maintenant entre 23 000 et 34 000 euros. La trouvaille de rêve.
Incroyable. Bon, ce tour d'horizon basé sur les extraits de Logis Week nous a vraiment fait voyager. Des préoccupations quotidiennes des Marocains aux grandes manœuvres planétaires.
Oui.
En passant par les dilemmes de l'IA, les soubresauts culturels. Ce qui ressort, c'est vraiment l'interconnexion de tout ça.
Absolument. Les tensions économiques locales, elles peuvent être aggravées par les dynamiques géopolitiques globales. Et la technologie, elle redéfinit à la fois notre sécurité nationale et nos habitudes les plus personnelles. Tout est lié.
C'est clair.
Et si on devait peut-être extraire une réflexion un peu transversale de toutes ces informations, ce serait peut-être autour de la notion de résilience.
La résilience.
Oui, elle semble émerger comme un fil conducteur, même s'il n'est pas explicite. Résilience économique face à la hausse des coûts, aux inégalités. Résilience des statistiques face au scepticisme dont on a parlé. Résilience sécuritaire face aux menaces classiques et cyber. Résilience judiciaire et sociale face aux tensions internes. Résilience diplomatique dans ce monde multipolaire si complexe.
Même la résilience créative face à l'IA.
Exactement. Et la résilience environnementale avec des projets comme celui de Mediona. Du coup, la question qui se pose et que les sources nous invitent peut-être à méditer, c'est comment, à tous les niveaux, individuel, national, international, comment peut-on renforcer notre capacité à naviguer, à nous adapter et idéalement à prospérer dans ce contexte de transformation qui sont accélérées et souvent imprévisibles.
C'est une question essentielle, en effet. Et elle ouvre de nombreuses pistes de réflexion. Notre exploration s'achève ici pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse des informations issues de Logi eWeek numéro 96.
Merci.